L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous voici pour une nouvelle étape sur le chemin de l'évangile pour le couple. Et là, nous allons, pendant 2-3 émissions, aborder un point important, délicat, qui est la question de nos relations en tant que couple avec nos propres parents. Et bien sûr, au travers de cette réflexion, de la parole de Dieu, bien sûr, ça concerne également nos relations avec nos enfants. Particulièrement quand nos enfants sont invités à prendre leur autonomie et leur liberté. Et la relation que nous avons à avoir avec eux. Donc c'est vraiment la question des relations intergénérationnelles. Et là, l'évangile est assez précis et souligne toute une série de points. Et on va commencer, Maud, par un premier point. Et là aussi, comme pour le domaine de l'alliance conjugale, dans le domaine de la sexualité, que le domaine de relations avec les parents, on va suivre le chemin de Jésus à partir toujours de l'évangile de Matthieu en 19, où pour comprendre la construction, les fondements, les racines de l'alliance conjugale, eh bien Jésus renvoie ses interlocuteurs, ses disciples, à la Genèse, et notamment au chapitre 2 de la Genèse.
Oui, il termine la Genèse s'achève sur cette phrase « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. »
Ah, finissez la Genèse, c'est la fin du deuxième chapitre de la Genèse.
Voilà.
Et donc, juste ce verset, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et d'où l'importance, pour s'attacher, il faut d'abord quitter. Et ce point est très important quand nous avons évoqué longuement le fait que l'alliance de l'homme et de la femme s'inscrit dans une seule chair. Ça veut dire que si jamais le conjoint n'a pas quitté son père et sa mère, eh bien cette alliance, cet attachement qui va se concrétiser jusqu'à ce une seule chair, cette profonde communion conjugale, eh bien n'est pas possible. En tout cas, elle est très handicapée. Donc, est-ce que tu veux nous aider un peu à mieux comprendre ce quitter?
Voilà, c'est à partir du moment où nous sommes appelés à créer une nouvelle entité, une nouvelle petite église, une nouvelle famille. Nous devons nous attacher, c'est-à-dire donner l'importance de nos liens doivent être maintenant orientés sur une nouvelle réalité. Donc on ne peut pas s'attacher, par exemple Abraham ne pouvait pas s'attacher à une nouvelle terre sans avoir quitté l'Égypte, sans avoir quitté sa famille, ses biens, etc. Il est parti avec sa femme et son peuple, il a laissé tout ce que le Seigneur lui demandait de laisser. Dans la parole de Dieu, on voit souvent que à chaque fois qu'il y a une étape importante, il nous est demandé d'abord de quitter et de partir dans la confiance et dans l'abandon. De la même façon, pour créer un couple, pour créer une famille, pour aimer en plénitude son conjoint, il nous est demandé de quitter notre famille, de quitter ces liens de sang qui nous ont été donnés par Dieu, certainement, mais nous sommes appelés à passer d'un lien, je dirais, de filiation à un lien d'élection. Nous avons élu, choisi notre conjoint et Dieu nous demande de tout laisser pour cette élection, dans la mesure où cette élection, bien sûr, est sous son regard et dans sa main.
Et c'est très important, souvent dans le langage courant, on dit, tiens, il y en a un tel ou un tel, il n'a pas coupé le cordon. Ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Mais ça a un sens bien plus qu'humain, bien plus que psychologique. Ça a un sens, ça révèle une réalité théologique, anthropologique, spirituelle. Il est absolument essentiel que nous soyons conscients, que nous soyons couple, mûr, après 15, 20, 50 ans, parfois de vie commune, ou déjà en tant que fiancé, que se quitter est absolument fondamental. Et nous devons même nous poser la question, dans notre vie, quel que soit, je dirais, l'âge de notre couple et notre âge dans la vie, est-ce que nous avons quitté nos parents? Et nous pouvons vraiment témoigner combien effectivement ce fait de ne pas avoir quitté son père et sa mère, malgré tous les désirs qu'on a pu avoir, malgré les apparences, on peut ne pas avoir quitté son père et sa mère, alors qu'on se trouve à 10 000 km, ou à l'autre bout de la Terre, en Australie, ou en Chine, etc. Et on peut avoir quitté son père et sa mère, alors qu'on habite trois rues à côté. Bien sûr, peut-être que la séparation physique, si je puis dire, et l'éloignement peut permettre quand il y a des difficultés. Mais l'important, c'est vraiment au niveau du lien personnel, intérieur. Et il est fondamental d'acquérir cette liberté. Il ne s'agit pas de renier sa famille, pas du tout ça. Il s'agit à un moment de quitter. De quitter, c'est que vraiment, nous sommes partis, si on reprend les termes, on est partis d'une église domestique pour rejoindre une autre église et fonder nous-mêmes une église, un peu comme une mission. Nous sommes dans une église à croître dans la foi, et à un moment, l'église nous envoie pour fonder, entre guillemets, une autre communauté, une autre église, et effectivement, c'est de fonder notre famille. Et à ce moment-là, nous devons avoir vraiment une grande liberté avec notre conjoint pour fonder cette nouvelle communauté, cette nouvelle église, présence du corps du Christ, parce que nous sommes appelés à construire ce corps du Christ. Et donc, il nous faut à un moment avoir acquis, entre guillemets, cette liberté. Après un temps de croissance, vient le temps de la liberté et le temps de la fondation. Sinon, la fondation n'est pas possible.
Oui, d'autant plus que nous savons que dans la parole de Dieu, il n'y a jamais un verset par hasard. Et il y a un rapprochement qui est assez surprenant dans, justement, c'est toujours cet évangile de Matthieu au chapitre 19. Quand Jésus cite la Genèse, il termine donc par cette phrase, ainsi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, etc. Et il continue. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Et on pourrait dire aussi de la même façon, si Jésus insiste aussi lourdement, c'est que ce que Dieu a uni, que les parents de chacun ne les séparent point. Il y a là une invitation à rentrer dans une alliance qui est choisie, qui est voulue, et dans laquelle on a engagé notre acte de liberté d'adulte de partir avec un conjoint, et quelque part les parents n'ont pas à mettre en péril cette unité, parce qu'ils s'immisceraient toujours entre les deux de façon consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire. Bon, bien sûr, on peut dire en riant qu'il y a des situations qui sont plus cocasses que d'autres, mais il y en a qui sont suffisamment graves, comme par exemple les fameuses mamas en Italie. Je suis désolée de citer cet exemple, mais elle a été publiquement citée à la radio italienne. Il y a des cours qui ont été mis en place par des psychologues pour aider les mamas italiennes à ne pas s'immiscer dans les vies conjugales, parce que c'était source de divorce de façon absolument
majeure. Il y a même un programme du ministère des Affaires sociales italien qui effectivement a organisé toute une série de cours pour inviter les mamas et les mères italiennes à lâcher leur fils, hein, parce qu'elles avaient énormément de mal à le faire. Et donc, bon, ça nous fait bien sûr sourire, mais ça nous concerne tous, hein, et on a sans doute beaucoup d'exemples autour de nous et dans nos propres familles où effectivement cette liberté entre guillemets n'a pas été acquise, où on doit toujours se référer à papa, à maman, à ceci, à cela, à un certain modèle. Nous avons, que ça soit à un niveau de l'éducation, à un niveau social, à un niveau travail, nous avons acquis la pleine liberté. C'est pas pour ça que les parents ne peuvent pas effectivement à un moment donner leur avis, avoir leurs sentiments, etc. Mais nous devons, en tant que couple, absolument avoir cette liberté. Nos enfants doivent avoir cette liberté. Et nos parents doivent acquérir cette liberté. Et c'est important, c'est difficile. On est bien concernés, nous-mêmes nous sommes concernés. Nous avons une enfant qui vient de se marier, l'une ou l'autre sans doute qui va se marier peut-être bientôt, on ne sait pas. À chaque fois, effectivement, il faut aller acquérir cette liberté pour pouvoir de l'attachement, en disant bah, maintenant, voilà, tu n'es plus sous la houlette de tes parents, mais tu as discerné pleinement. On le dit facilement comme ça, mais trop souvent, nous avons des liens beaucoup trop inconscients et bien présent qui existe et qui effectivement empêche le couple de prendre sa croissance, d'acquérir son charisme, d'acquérir sa propre vie, parce que il y a trop de liens et que justement il n'y a pas eu ce quitté son père et sa mère.
Voilà, c'est, je pense que c'est important, Alex, de le resituer aussi au niveau spirituel, c'est-à-dire que pour toutes je dirais, les données de notre vie de couple que nous avons à construire, comment éduquer nos enfants, quel style de vie on veut choisir, où est-ce qu'on décide de poser nos valises et de nous installer dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme amis, tout ça, ça fait partie de la constitution d'un couple, et je pense que c'est de la responsabilité du couple aussi d'acquérir cette liberté pour être capable de discerner entre les héritages de l'un, les héritages de l'autre, et bien qu'est-ce qu'on choisit et qui est notre couleur spécifique à nous. Et pour faire ce travail, il faut une vraie liberté intérieure. C'est pour ça que je pense que cette conversion, elle est d'abord à acquérir pour nous qui quittons nos parents quand nous nous marions, c'est de prendre cette capacité, enfin d'apprendre cette aptitude à ne pas rejeter de façon puérile nos parents, mais au contraire à les honorer, à respecter tout ce qu'ils nous ont donné et à la fois à faire nos propres choix dans une vraie liberté.
Et le sens, peut-être pour aller dans le compléter ce que tu soulignes au niveau spirituel, on peut le souligner également au niveau sacramentel, c'est que les parents sont unis par un sacrement. Et c'est au nom de ce sacrement du mariage qu'ils fondent leur église domestique. Et qui sont vraiment fondateurs, et ils en ont le don spirituel, ils en ont le ministère qui leur est confié par Dieu. Or, les parents et les enfants ne sont pas liés par des sacrements. De par notre ministère, nous sommes, bien sûr, nous devons éduquer, lancer nos enfants sur le chemin de la vie et de la révélation, mais après c'est leur liberté de l'accueillir ou de le rejeter, et de fonder et de décider. Ceci est une bénédiction, et c'est aussi une bonne nouvelle, car c'est un chemin de notre liberté et notre vocation conjugale. A tout de suite. Nous voilà donc sur ce chemin de l'évangile pour le couple pour découvrir davantage l'évangile concernant nos relations en tant que couple avec nos parents ou avec nos enfants. Nos enfants dans le sens de grands-enfants. Toute la relation générationnelle. Alors, il y a un autre évangile, Maud, qui va aussi nous introduire dans cet appel. C'est l'évangile de Luc au chapitre 14.
Oui, au verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Waouh, haïr, attends, essaye de nous reprendre ça. Est-ce qu'il faut que je te haïsse, mon amour, pour vivre ma vocation conjugale chrétienne?
Bon, là, il faudrait reprendre le terme en français dans le texte pour prendre le sens hébraïque. On devrait dire, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Voilà, c'est le sens que nous avons essayé d'évoquer lors de la précédente émission concernant les deux premiers commandements du Deutéronome. On a longuement médité dessus, on ne va pas y revenir. C'est l'amour de Dieu et l'amour de l'autre, l'amour du conjoint. Et c'est, il n'y a pas contradiction entre les deux amours. Mais la primauté, c'est bien l'amour de Dieu. Et que justement, pour aimer en plénitude mon conjoint, il faut d'abord que j'aime en premier le Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ est le chemin à la libération. Il est mon sauveur. Et donc, c'est parce que je l'accueille comme mon sauveur qu'il libère en moi, je dirais, la grâce de mon humanité, à la fois en tant qu'homme et à la fois en tant qu'époux. Et de même pour toi, en tant que femme et en tant qu'épouse. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre en plénitude, dilater notre vocation conjugale. Donc effectivement, c'est l'insistance, mais noir sur blanc, de Jésus sur le fait que c'est dans un couple la primauté du Christ pour fonder notre couple. C'est très exigeant.
Oui, c'est très exigeant, mais il faut bien resituer. Ces textes sont placés dans une série de textes qui nous appellent, qui nous apprend ce qu'il faut faire pour être disciple du Christ. Donc pour être disciple du Christ, il faut replacer toutes nos relations sous le regard du Christ. C'est-à-dire que suivre Jésus pour connaître ce bonheur et cette béatitude qu'il nous promet, c'est rentrer dans une relation nouvelle avec moi-même et avec les autres et avec Dieu. Donc rentrer dans une relation nouvelle, ça veut dire que je vais mettre en premier ce que le Christ me demande de vivre. La relation à Dieu, la relation à mon conjoint, parce que c'est de l'ordre du sacrement et c'est de l'ordre d'un appel de vie. Il me demande de consacrer ma vie à rendre l'autre heureux et à recevoir l'amour de l'autre pour être heureuse. C'est ça notre appel de couple, manifester la plénitude de l'amour de Dieu par notre amour. Et tous les autres liens que nous allons tisser sont des liens qui vont être importants, mais qui vont être seconds par rapport à ce premier lien. Donc il me demande de me détacher de mes liens qu'on appelle de sang, les liens charnels, les liens avec nos parents, même les liens avec nos enfants. Et il va ensuite nous demander de nous détacher de nos biens terrestres, de nos biens matériels.
Même jusqu'à sa propre vie.
Et jusqu'à notre propre vie. C'est-à-dire qu'effectivement, rien ne compte plus que le Christ. Et si on arrive à mettre cette primauté, alors il nous donnera une vraie liberté pour aimer de façon pleine les autres à leur juste mesure, mais à leur juste place.
Mais est-ce que tu crois que cette primauté du Christ peut, à un moment ou à un autre, être objet de contradiction avec l'amour que j'ai de mon conjoint, de mes enfants, de la famille, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un moment en contradiction ?
Alors moi je pense, et je le sais parce que nous le vivons, qu'il n'y a pas de contradiction dans le sens de l'amour, c'est-à-dire que ça nous remplit pour nous permettre d'aimer dans plus de plénitude, plus de justesse. Par contre, il y a une contradiction claire par rapport à ce que le monde nous propose et ce que le monde vit, et on va évidemment se heurter parfois à l'incompréhension de notre entourage. Préférer le Christ, c'est une folie, déjà saint Paul le disait. Et quand on en parle autour de nous à des gens non-croyants ou disons qui n'ont pas mis ce Christ en premier dans leur vie, ils nous prennent pour des fous. Donc de fait, cette folie-là est une folie qui est bien douce parce qu'elle nous apporte beaucoup de joie, de bonheur et d'épanouissement. Mais ça, ils ne le savent peut-être pas, ils ne voient que l'extérieur et à ce moment-là, ils sont inquiets de voir nos choix de vie. C'est certain que ça va amener la contradiction. I need you like the
rain. Mais ce qui est sûr, et ça on peut en témoigner, dans nos vies et puis dans tant de vies, c'est qu'effectivement, d'avoir mis le Christ au cœur de la vie conjugale, comme premier, dans la mesure où on peut, avec toutes nos pauvretés, et bien humblement, etc., mais si vraiment de le mettre comme la pierre d'angle, comme nous y invite saint Paul, le Christ est la pierre d'angle de la construction de l'Église que nous voulons construire, de la vie familiale que nous voulons construire, de l'ensemble de notre vie. Le fait de mettre le Christ au cœur de notre vie et de manière très explicite vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre entourage, et que c'est vraiment lui qui est notre référence constante, directe ou indirecte, vis-à-vis des choix que nous faisons, et ça de manière notamment vis-à-vis de nos enfants, de manière explicite, et ben ça n'enlève pas du tout l'humanité, et ça n'enlève pas, je dirais, l'incarnation, l'engagement dans le monde. C'est pas ça qui va, je dirais, couper notre incarnation, notre engagement, la joie que nous avons d'être au cœur de ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes au cœur du monde. Et le Christ ne vient pas enlever notre humanité, mais justement vient la dilater. Et c'est ça qui m'émerveille au travers de tant de familles chrétiennes que nous pouvons côtoyer, qui ont vraiment le Christ au cœur de leur vie, pas simplement au niveau d'une pratique religieuse, mais qui vraiment vivent de ce Christ et qui l'ont mis au cœur, c'est qu'on voit une dilatation humaine des personnalités et que ça n'enlève pas l'humanité, mais que justement ça l'intensifie. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que les charismes, les personnalités, les singularités de chacun ont l'air de s'exprimer.
Oui, c'est amusant d'ailleurs, parce que nous avons commenté il y a quelques semaines les fondations que nous avons besoin de creuser profond pour construire notre maison. Et bien voilà que maintenant nous sommes passés des fondations à la pierre d'angle. Nous commençons à construire notre édifice et la première pierre à poser, c'est le Christ. Et si nous voulons que cette première pierre soit vraiment le Christ, alors nous sommes invités à revisiter nos relations avec nos parents, avec nos enfants, pour justement lui donner la première place. La première place.
La première place.
Voilà, peut-être ce sera aussi la première pièce, le lieu de la prière dans notre maison. Mais de fait, si nous bâtissons notre maison sur des liens avec nos parents, par exemple, on sait que nous allons au casse-cou. Parce que ce n'est pas cela que nous sommes appelés à vivre. Et que, inévitablement, ce genre de couple qu'on dit bancal parce qu'il y a les parents ou la belle-mère ou autre qui s'y misent dans la vie de couple, c'est du venin pour la vie du couple.
Voilà, c'est pour ça que je crois que vraiment avec la parole de Dieu, je crois qu'il est fondamental d'accueillir, et c'est le sens de cette parole un peu vive du Christ dans l'évangile de Luc, c'est que vraiment c'est une invitation très claire, sans concession, que en tant que couple, nous sommes invités pour goûter la liberté. Pour construire en profondeur, pour enraciner notre couple sur le roc, c'est de choisir le Christ comme la porte. Pas une des portes, c'est la porte sur laquelle se décline, à partir de laquelle se déclinent toutes les autres. Hein, c'est dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, un peu plus loin, en chapitre 14, il est souligné combien le Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas un chemin, une vérité et une vie. C'est pas la dissertation philosophico-religieuse. C'est pas de la poésie. C'est pas de l'emphase. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est notre conviction en tant que couple, mais pas en tant qu'Alex et Maud, en tant que couple chrétien qui confessons l'Évangile, qui confessons la foi chrétienne, nous sommes appelés à choisir le Christ comme cette porte étroite, comme cette pierre d'angle de notre édifice conjugal et familial. Et ça, c'est aussi libératoire. C'est dans la mesure où nous avons fait ce choix-là que effectivement nous pouvons construire, je dirais, notre famille sur le roc.
Oui, et j'aime beaucoup cette parole de saint Paul aussi qui annonce avec force, je vous annonce un Messie crucifié, ressuscité, sauveur, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui puisse nous assurer cet édifice posé sur de saines fondations et construit sur une pierre d'angle solide qui jamais ne nous décevra. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut redire avec force, c'est que si l'on fait ce choix de la pierre d'angle qui est le Christ, c'est parce que nous savons qu'avec lui, nous avons tout. Tout nous est donné, tout nous est possible. Après, bien sûr, ce sera, je dirais, ça dépendra de notre façon d'accueillir cette grâce, notre façon de nous ouvrir et notre capacité à nous laisser pétrir par Dieu au travers de ce chemin. Mais tout est offert, potentiellement tout est donné si le Christ est premier dans notre vie.
Et cette invitation, bien sûr, elle est faite d'abord pour les fiancés. Parce que plus tôt on construit la maison sur la pierre d'angle du Christ, mieux c'est. Mais cette invitation, c'est ça qui est extraordinaire dans l'Évangile, il y a les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure. Il y a les ouvriers, je dirais, 3 ans avant le mariage, où tout est très bien construit, où va très bien se construire, et puis il y a ceux qui sont à bout de 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, et qui vont découvrir le Christ comme pierre d'angle de leur vie. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que cet appel à accueillir le Christ comme la pierre d'angle, bien sûr le plus tôt est le mieux, mais tout est possible. Et toute construction autour du Christ, et ce choix premier du Christ, est possible, et même libératoire, d'autant plus quand on a vécu peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans sans connaître le Christ, ou en le connaissant un peu de loin avec des valeurs ou quelques pratiques, etc. Mais là où le Christ n'est pas vivant. Or le Christ, il est vraiment notre sauveur, notre maître, et il nous le montre en tant que conjoint et enfant de parents et parents d'enfants. Qu'il nous conduise et qu'il nous bénisse.